Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce 525e numéro de Invino BFM. Notre émission est délocalisée, nous sommes à la Bordothèque, au Galeries Lafayette à Paris, boulevard Haussmann, avec un programme qui, comme d'habitude, prêche la consommation responsable et modérée. Les vignobles secrets de Venise, dont parlerons le concept WID, les champagnes pour les fêtes de fin d'année qui arrivent dans quelques jours, le cognac Godet sera aussi à l'honneur, la distillerie de Paris, et comme chaque week-end, toute l'actualité mondiale des vins et spiritueux, en compagnie de mes trois complices du jour, Corinne Lefort, Didier Lamouche et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Corinne, on commence par le Vino Quiz.
Oui. Alors, je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne un dîner de dégustation pour deux personnes au bistrot Zag et Vin. Je vous rappelle l'adresse, 18 rue Dufaux, dans le 1er arrondissement de Paris, à côté de la place de la Madeleine. Alors, la semaine dernière, la question était: en quelle année la maison Duval-le-Roy a-t-elle été fondée ? Réponse A, 1789. Réponse B, 1805. Réponse C, 1859.
Donc la réponse pour cette belle maison de champagne est
1859.
Alors cette semaine, Corinne ?
Ah ben, une nouvelle question. Alors là, on va voir si vous faites très attention. Depuis combien de générations existe la maison Godet ?
Maison de cognac Godet.
Voilà. Alors, réponse A, donc 5, réponse B 15, réponse C 25. Pour répondre et gagner un dîner dégustation pour deux personnes au bistrot Zag et Vin, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeux.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Corinne Fort. David Cobol, 1965 est une année qui vous sied ?
Alors sur certains plans oui, sur d'autres et en particulier sur le vin, ça va être le mur de lamentation.
Aïe.
Bah oui, parce qu'à Bordeaux, c'est probablement le plus mauvais millésime de la décennie. Un désastre total en Bourgogne, pas de soleil, millésime à oublier. Pareil en Rhône, on a rarement vu pire en Alsace, et ce n'était pas millésimable en Champagne. Donc on peut oublier 65.
Bon, et même sur à Porto, Armagnac...
Il y a des Porto corrects en 65. C'est pas grandiose. Armagnac, bon, ça s'en sort toujours parce que c'est distillé. Donc, vraiment, 65, c'est pas une année...
Bon, je sais que vous aimez le rugby. Côté rugby, qu'est-ce qui s'est passé en 65?
Eh bien, encore une fois, c'est les Gallois qui ont gagné.
Les Gallois, bah, les Gallois, à l'époque, ils gagnaient tout le temps, les Gallois.
Hein. Bah, ils gagnaient souvent.
C'était les Argentins,
il y a une période de 20 ans où les Gallois ont gagné beaucoup. Grosse équipe. Et ils ont battu la France d'un match. Ils ont gagné 4 sur les 5. Ou 3 sur les 4, parce que c'était 5 nations à l'époque. France 2, Irlande 3, et les Anglais ont battu les Français d'un point à Twickenham. À l'époque, c'était des scores genre 7-6 sous la flotte,
avec
probablement.
Des vraies batailles, quoi. 1965, c'est la naissance du premier invité, Patrice Béguet, le directeur exécutif de BPI France. Bonjour Patrice.
Bonjour Alain.
Alors, votre parcours scolaire, donc études de mathématiques et études également de commerce, et puis vous avez commencé sur Canal+, aux côtés de Coluche.
Oui, c'était tout le début de ma carrière, ça.
Et alors, vous faisiez quoi avec Coluche? Vous avez quoi, quelques semaines, quoi?
Oui, parce que j'étais ce qu'on appelle Rod, dans son émission qui s'appelait Info, où je démarrais mes études à Paris.
En 2007, vous avez travaillé aux côtés d'Alain de Pouzillac, un grand monsieur, amateur lui aussi de vin et de rugby. Vous l'aimez beaucoup, ce monsieur, hein?
Beaucoup. Comme tous mes patrons, d'ailleurs. Beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'Alexis Tour, du nouveau job chez BPI France, vous avez toujours travaillé dans la même rue à Issy-les-Moulineaux.
Oui, c'est vrai. Toute ma carrière, je l'ai faite à Issy-les-Moulineaux, qui était rue Camille Desmoulins.
Ah oui,
oui.
Ah
ben,
donc vous avez passé 20 ans rue Camille Desmoulins.
Oui, chez Orange, France Télécom Câble, Wanadoo, et puis l'AEF avec France 24, RFI, Monte Carlo.
Et France Télécom, ça a duré combien de temps l'aventure ?
14 ans.
14 ans, et notamment vous êtes occupé du rebranding de la marque Orange, c'est une belle aventure ça aussi.
Absolument, hein. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, 14 ans chez France Télécom, d'abord les réseaux câblés avec France Télécom Câble, donc amener le câble dans tous les foyers français, et puis ensuite c'était la création de Wanadoo, l'internet par France Télécom, Wanadoo Positive Génération, hein, ce qui est une des valeurs d'ailleurs de positive avec la volonté, l'optimisme de BPI France, et puis ensuite le rebranding d'Orange, c'est-à-dire ramener toutes ces marques à une seule marque avec l'opérateur intégré.
Depuis 2013, donc, vous avez rejoint BPI France, la banque dirigée par Nicolas Dufourcq. Un mot peut-être sur cette antériorité, on a l'impression que c'est très âgé, mais en fait ça a vu le jour il n'y a pas longtemps, janvier 2013.
Juillet exactement, juillet. 2013. Donc on a deux actionnaires, l'État et la Caisse des dépôts de consignation, dirigés par un homme formidable qui est Nicolas Dufourcq. Et BPI France, en fait, est le partenaire de confiance des entrepreneurs. Et c'était quatre marques à la base. Oseo, la banque des entrepreneurs. Le FSI, le fonds stratégique d'investissement. FSI Région. Et puis la Caisse des dépôts consignation entreprise.
Et aujourd'hui, donc, les métiers, quelles sont les prestations que vous proposez?
Alors aujourd'hui, on a six principaux métiers qui sont la garantie, le financement, l'innovation, l'export, parce que on sait qu'aujourd'hui les entreprises qui réussissent sont celles qui innovent et celles qui vont à l'international. Et puis le dernier métier, c'est les fonds propres, avec le fonds direct et l'activité fonds de fonds.
Un mot sur les rencontres de BPI France.
Alors les rencontres, c'est un gros succès, puisqu'on a rencontré entre le début juin et jusqu'au 2 décembre 11 000 entrepreneurs. Le réseau BPI France Excellence regroupe 2 000 entreprises, 400 000 emplois, 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc à chaque fois, c'est financer les entrepreneurs, leur donner les moyens de réussir. Donc sur chacune des rencontres, c'est entre 400 à 600 entrepreneurs. Tout simplement en leur disant qu'on finance leur avenir, l'avenir des entreprises. Aujourd'hui, on a 80 000 clients au total. Et en France, vraiment, c'est souvent, moi je dis souvent, la France, c'est une Californie qui s'ignore. On a tout pour réussir en France. Donc, en fait, on amène les entrepreneurs à passer à l'acte, à se remettre à investir, à ouvrir le capital. Et ouvrir le capital, pour eux, c'est pas un risque, mais une opportunité tout simplement pour grandir. Et puis, on leur dit tout simplement, fixez-vous des objectifs ambitieux, nous allons les financer. En gros, vos rêves les plus fous, chers entrepreneurs, c'est jouable.
Vous avez également des partenariats avec des clubs de sport, notamment dans le rugby avec le Stade français.
Oui, on est partenaire de tous les sports collectifs en France. Nous avons 31 clubs partenaires sur l'ensemble du territoire, puisque on est la banque des territoires, hein, le meilleur du privé, le meilleur du public, le tout dans une banque, ça vous le savez. Et donc aujourd'hui, c'est de développer les clubs entreprises, car aujourd'hui, les clubs de sport ont besoin de financement privé. Nous avons les clients, des clients qui cherchent de la valorisation, de sponsoring, de place pour leurs propres clients, etc. Donc en fait, on fait ce lien avec cette véritable écosystème économique dans chacune des régions de France.
Patrice, je sais que vous écoutez chaque week-end une vidéo BFM à Paris sur 96.1. Côté vin blanc, vous avez un petit fait pour les Gewürztraminer alsaciens ou les moelleux bordelais, racontez-nous.
En fait, j'aime pas trop le blanc. mais sauf ceux-là, les Sainte-Croix-du-Mont, les Mont-Basillac, et puis les vins de vendange tardive.
Les Gewürztraminer, tiens David Cobol, on n'en parle pas souvent en cette période de fête. Je rappelle que Noël, c'est dans quelques jours, pour ceux qui l'auraient oublié. Ça fonctionne avec pas mal de choses.
Ça fonctionne avec beaucoup de choses. Ça veut dire le Gewürz épicé, enfin le Traminer épicé, plus exactement. Gewürz, c'est le mot allemand pour épice. Ça est issu d'un très vieux cépage, et ça produit une gamme de vins qui vont du sec, mais très aromatique, à des traits liquoreux dans la sélection des grains nobles issus de vendanges tardives.
C'est marqué sur l'étiquette, on ne peut pas se tromper.
Au moins, ça, c'est marqué sur l'étiquette. Le problème des vins d'Alsace, c'est qu'on ne sait jamais si on a affaire sur une étiquette, si le vin est sucré, un peu sucré, très très sucré ou pas sucré du tout.
Didier Lamouche,
mais quand on voit vendange tardif, on sait que ça va être très riche, et si c'est sélection de grains nobles, ça va être riche et sucré.
Et sucré. Didier Lamouche, vous aimez les vins d'Alsace?
J'ose avouer que l'Alsace est un peu un trou dans ma culture.
Ah,
c'est
oui.
probablement le vin.
Il va falloir le combler très vite, parce qu'il y a des vins merveilleux.
Oui. Le fort.
Superbes Riesling aussi, ouais, qui peuvent être doux. Mmh. Et puis surtout, ils ont un passé dont ils sont très fiers, ils remettent en valeur des terroirs qui jusqu'alors n'étaient pas produits.
Patrice Béguet, on revient vers vous. Vous êtes né juste à côté de Bordeaux. À combien de kilomètres de Bordeaux d'ailleurs, Patrice?
3 kilomètres.
Oui, il vous paraît que côté vin rouge, vous êtes fan de Pomerol.
Oui, c'est pire, hein, en particulier le château La Pointe Pomerol. Et puis un autre que j'aime beaucoup parce que c'est tenu par un groupe familial qui sont les Catiard et Tourbier, avec les sources de Caudalie, qui est le Smith au Lafitte.
En Pessac Léognan.
Exactement. Et puis les vins de Corse aussi, j'aime bien. Sans oublier le champagne, hein.
Oui.
Le champagne Tétinger.
Il est très éclectique, ouais, hein. On a voyagé quatre fois de la France.
Ah
hein.
Ben voilà.
C'est très important
de BPI France, hein.
Voilà, c'est les communications.
Pomerol, David, vous nous rappelez un peu les caractéristiques.
Alors, Pomerol, c'est une petite appellation, petite par la taille, mais grande par la renommée, de 800-900 hectares, sur la rive droite, près de Libourne, juste avant d'arriver à Saint-Émilion. Et on produit des vins essentiellement avec le cépage Merlot. Ça doit constituer 80% parfois dans les cas extrêmes, comme Petrus, on est à 98% de Merlot, sur un plateau calcaire, argilo-calcaire, produisant des vins plutôt riches, plutôt denses, de longue garde, assez voluptueux. On disait parfois
qu'il faut les attendre, David, hein, c'est pas à boire dans l'année,
c'est pas des pigeons de l'année ou des poireaux de l'année ou qu'est-ce qu'on dit, des poireaux de l'année mais les grands, il faut les attendre 20 ans.
Corinne Lefort, et après Didier Lamouche.
Il n'y a pas de classement, là. C'est ça qui est merveilleux.
Pas besoin de classement.
Exactement, pas besoin de classement. Et souvent, c'est vraiment des amateurs de terroir, de château qui est important. C'est vraiment pas le nom qui va... Bien sûr, il y a Petrus, il y en a d'autres, mais c'est vraiment le terroir qui fait la réputation.
C'est le problème, c'est le prix, quand même. Parce que comme c'est petit et c'est très bon, tout le monde est au courant, donc le prix monte.
Didier, est-ce que vous êtes plus compétent sur les pommes que sur les gueules?
Non, juste un mot, ni l'un ni l'autre. Je voudrais parler de la Corse. Il a mentionné la Corse. La Corse est un vignoble qui est en devenir exceptionnel. J'ai goûté récemment un blanc vinifié par Courrèges, même nom que le couturier, extraordinaire, parce que les vignes sont plantées en altitude, donc un très très bel équilibre entre l'acidité et puis la chaleur. Donc.
Très beau vignoble. Patrice, il paraît que vous avez réussi à séduire celle qui devient votre épouse grâce à des pâtes aux œufs.
Oui, c'est vrai.
Elle n'est pas difficile.
Elle était 1985.
Pas généreux.
Comment vous les préparez?
Je ne faisais pas de cuisine, j'ai fait une spécialité spécialement pour elle ce soir-là.
Ouais. Et qu'est-ce que vous avez sorti comme vin avec des pâtes aux œufs, là?
Je me rappelle plus. Si, un vin de Vendée.
De Vendée,
oui, oui.
Un fief Vendéen.
Un fief Vendéen.
Vous qu'elle vous aime quand
difficile.
Même. Hein.
Voilà.
Ça, c'est original aussi.
Mais elle est Vendéenne.
Voilà. Alors, si c'est pour la bonne cause, c'est différent. David Quebol, les fiefs Vendéens, il vaut mieux faire du cognac ou des...
Non, pas du tout. Non, on a fait des progrès extraordinaires en fief Vendéen. Moi, j'ai goûté, il y a 2-3 producteurs qui font des choses magnifiques, vraiment intéressants, avec des cépages dans certains cas qu'on trouve pas ailleurs. Il y a une petite curiosité dans la région de Vendée, on trouve le cépage de la région de Toulouse, la négrette
quoi.
Et on ne sait pas quelle est la connexion entre ces deux régions, mais elle existe.
Un Charentais qui est passé par là, qui a décidé
ou l'inverse. Toulousain qui est monté vers la
et pour l'océan. Terminer, Patrice, deux coups de cœur pour deux restaurants à Paris, un Corse et un Basque par exemple.
Un Corse, ça serait plutôt la Villa Corse dans le 15e. Je précise bien dans le 15e. Et puis un basque, c'est celui qui est boulevard du Montparnasse 78, c'est un petit troquet très sympa qui s'appelle Oye Pachoa, donc c'est très agréable, mais il y a aussi de très bons restaurants. Alors, on parlait de Vendée tout à l'heure parce qu'on parle de la France, hein. Il y a le petit Noirmoutier dans Moutier qui représente toutes les qualités de la France sur... Et puis moi, ce que j'aimais bien, parce que vous parliez que j'étais dans une même rue durant toute ma carrière, c'était à Issy-les-Moulineaux, c'est le River Café, tenu par un entrepreneur qui s'appelle Mathieu Boucher, qui était le fils de Jean-Paul Boucher.
Merci beaucoup, Patrice Béguet. Nous marquons une première pause et ensuite retour à la Bordothèque au Galeries Lafayette à Paris pour parler de Venise et du concept WID.
BFM Business Weekend. Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour à la Bordothèque, nous sommes toujours au Galeries Lafayette à Paris, boulevard Haussmann, pour retrouver Corinne Lefort, journaliste, historienne et spécialiste de tourisme dans les vignobles. Tout va bien, Corinne?
Oui, tout va bien.
C'est joli Venise, c'est très joli. Est-ce que les vins de Venise sont bons?
Alors écoutez, il y en a un ou deux qui sont pas mal, mais surtout ce que je voulais à travers cette intervention, c'est vous montrer une autre Venise, celle que l'on connaît très peu et qui, moi, me fascine depuis longtemps parce qu'elle regroupe à la fois cette patte humaine propre à l'Italie, c'est-à-dire un artisanat parfois étonnant, et puis surtout cette histoire et la modernité, des audaces, et notamment avec une renaissance de vignes qui avaient alors, jusqu'alors disparu et que l'on va retrouver un peu partout, sur toute la lagune. Il y a une association qui s'appelle la Laguna nel Bicchiere, ça veut dire la lagune dans les verres, qui a décidé de reprendre toutes les petites parcelles possibles encore aujourd'hui, les espaces verts disponibles, et surtout de retrouver les cartes historiques où se tenaient les vignobles qui alimentaient Paris directement. Parce que bien sûr, Venise a été la capitale, le centre du transport du sucre, hein, depuis la Crète notamment, mais elle a été aussi des lieux de stockage de vin pour toute l'Italie et bien évidemment pour le reste de l'Europe. Alors, il y a eu une conférence très intéressante qui a eu lieu à côté de Dijon, à Beaune exactement, par la chaire de l'UNESCO, au Clos Vougeot, le 2 et 4 octobre dernier. Et cette chaire met en valeur les patrimoines au travers des paysages. D'ailleurs, aujourd'hui, ils interviennent dans tout ce qui va être le classement du patrimoine des paysages de Champagne, comme ceux de Bourgogne. Et deux universitaires de Venise, une de Venise, de Foscari di Venise, une autre de Milan, se sont amusés à reprendre toute l'histoire des vignobles et à aider ceux qui aujourd'hui veulent refaire, planter de la vigne, ou en tout cas qui ont délimité les terroirs existants et plantés qu'on ne connaissait pas. Alors pour vous donner une idée, j'ai pu moi visiter et découvrir dans Venise même, hein, à peu près une dizaine de vignobles, dont 3-4 sont exploités de façon commerciale et très efficace. Alors on parlait tout à l'heure de tout ce qui était lié à la télévision, aux câbles, aux communications. Nous avons un Français là-bas qui s'appelle Michel Toulouse, qui sur l'île de Saint-Érasme a planté sur une dizaine d'hectares de la vigne, cela depuis quelques années. Et il fait une cuvée qui s'appelle l'Orto di Venise, l'Orto di Venezia. C'est un vin blanc. Et il a retrouvé des cépages qui étaient autochtones, pour pouvoir justement être adaptés au sol, au problème des marées, à la salinité, et qui donnent un vin très apprécié.
Et comment il s'appelle? Ils ont un nom, ces cépages, peut-être?
Oui, je vais vous les donner. Il s'appelle, donc, il y a exactement, je crois...
Donc ça, ils sont plantés que là-bas?
Ils sont plantés en une partie que là-bas, mais surtout, il permet... au vin de Venise d'avoir une véritable identité.
David Kebold, intendant.
Parce que la problématique, c'est que beaucoup de vins dits vénitiens ne sont pas produits à Venise.
Ah, les coquins, comme la charcuterie corse. Hein.
Bah, le problématique, c'est que l'appellation Veneto, vous pouvez avoir des vins qui sont issus de vignes qui sont sur la côte, très loin en fait de la, mm-hmm. de la lagune.
David Kebold.
Alors, j'ai une question, Corinne, vu la topographie et surtout le niveau de la nappe phréatique, on doit pouvoir planter front de pied, n'est-ce pas?
Alors, c'est ça.
Les vignes ne sont pas greffées.
Qu'est-ce que c'est, front de pied?
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de greffer, puisque l'eau va noyer les canaux creusés éventuellement par l'aphide de phylloxera. Du coup, le phylloxera n'a pas de prise sur les vignes.
Absolument.
Quand il y a de l'eau.
C'est exactement ça. Il a planté en front de pied.
Donc, cette maladie ne peut pas arriver, quoi, c'est ça?
Non.
L'eau est saumâtre. Alors, à partir du moment où elle a cette typicité, la bestiole ne prend pas.
La bestiole.
Bah oui, mais c'est une bestiole, le phylloxera, quand même.
Ah oui. Pour Noël, ce serait sympa d'acheter une douzaine de phylloxera pour
les griller. Alors, la préparation du phylloxera est assez délicate. Il faut saisir très, très vite. Didier est d'ailleurs le spécialiste mondial des
alors, reviens à mes vignes. Il y a du malvoisie qu'on trouve, mais le malvoisie d'Istrie. Il y a le vermentino qu'on retrouve un peu aussi dans d'autres régions, notamment aussi en Corse. Et puis, il y a le fameux cépage, le Fiano d'Avellino et le Diavolo, le Dorona, qui est vraiment un cépage qu'on retrouve essentiellement à Venise. Alors, l'intérêt de ces vignobles.
Et est-ce qu'ils sont bons? Parce que c'est bien d'en parler. Mais...
Bah, écoutez, l'Orto di Venezia a eu une bonne réputation des grands professionnels. C'est en plus les Bourguignons, le couple, qui retrouvent l'authenticité, les qualités des terroirs. Il a eu énormément de conseils et on peut dire que le vin est bon. Alors, au-delà de ce vin...
Moi, j'ai goûté, j'ai goûté un rouge qui était fait dans le lagon, par un vigneron de Crozes-Hermitage, je crois bien, Graillot, Alain Graillot, absolument délicieux.
Ce qui est étonnant, parce que des terrains humides...
Graillot travaille pour, justement, Orto di Venezia, en tant que conseiller œnologique.
Le vin était splendide. Hein.
Alors, il y a comme vin rouge aussi, ceux qui sont produits par la Zité, les Fertili, qui se trouvent donc juste sur la Giudecca. Alors, à la Giudecca, si vous vous baladez, dernièrement, on a eu le mariage très médiatisé de Clunet. Eh bien, dans le Cipriani, George, il y a un jardin magnifique dans lequel il y a des vignes de plantées. Et ils font un vin rouge qui s'appelle le Casanova. Et ça va bien au célèbre acteur. Et ce Casanova Salso est un vin rouge qui a eu pas mal de prix. On a aussi, dans toute cette région, l'église de San Giorgio Maggiore, qu'on voit depuis le centre de Venise, où derrière, c'était des abbayes. Et ils avaient toujours un vignoble pour alimenter les besoins ecclésiastiques. On va avoir aussi quelque chose d'incroyable sur le cimetière. Dans le cimetière San Michele, vous voyez toujours les tombes de Stravinsky.
Le vin de l'au-delà.
Eh bien, il y a un vin qui n'est pas mauvais, qui est pressé encore avec tout ce qui est la technique ancienne. On voit un petit peu cette cueillette à la main. Ce sont des pergolas en général, à la méthode italienne, et on a vraiment des choses étonnantes. C'est pas beaucoup, hein. Ce sont à peu près, on va avoir 5 000, 6 000 bouteilles.
Combien ça coûte?
Et alors, ces vins.
À Venise, tout est cher, hein, donc.
Non, mais ces vins ne sont pas excessifs. Ils dépassent par rapport à la rareté pas moins de, légèrement autour de 15 euros.
Oui, donc c'est raisonnable.
Et l'Orto di Venezia, c'est à peu près la même chose. La dernière chose aussi, si vous allez à Burano pour les dentelles, passez un petit pont et vous trouver en direction de Torcello, vous allez avoir un endroit qui s'appelle le Mazorbo. Et le Mazorbo, il y a une vie incroyable où vous pouvez aller visiter, vous balader. Alors l'hiver, pour les fêtes de fin d'année, le temps n'est pas tellement propice à cela. Mais quand
même...
Il
faut prendre ses bottes.
Il faut prendre ses bottes, là, quoi.
Il faut aimer l'eau,
quoi. Il faut aimer l'eau. Et enfin, je conclurai en disant qu'il y a aussi quelque chose de remarquable. C'est lorsque vous arrivez à la gare, vous avez Santa Lucia, légèrement sur la gauche, vous avez un cloître qui s'appelle le cloître San Giacomo. Là, ça paraît tout vieux, vous avez la gare, le bruit. Puis d'un seul coup, vous entendez quelques cloches. Et bien, imaginez-vous qu'en dessous, ce n'est que des treilles et le raisin qui finalement fera un vin doux, liquoreux, délicieux pour Noël.
Merci beaucoup Corinne Lefort, joli voyage grâce à vous. Une vidéo BFM accueille maintenant un nouvel invité, Benoît Sudre, qui est cofondateur et directeur général de WID. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors c'est quoi ce concept WID, W-I-D?
Alors WID déjà ça vaut pour Wine Identification, donc l'identification du vin.
Et le D?
C'est ID pour et donc avec mon associé Alexandre Montgrenier, nous avons mis au point une solution d'authentification et de traçabilité des vins et spiritueux depuis le producteur jusqu'au consommateur final avec des outils adaptés pour tous les acteurs de la chaîne.
Alors le but c'est quoi? Il y a des faux partout et vous vous dites
alors,
grâce à mon produit,
voilà, on est parti de plusieurs choses. D'abord un constat dans la presse avec des articles de plus en plus présents sur la contrefaçon, en particulier l'histoire de monsieur Ponceau qui a eu des problèmes aux États-Unis lors de ventes aux enchères, et puis plus récemment à nos frontières avec la contrefaçon de Romane Conti en Italie avec des contrefacteurs français et italiens. Alors c'est vrai que pour l'instant justement on a eu des études qui estimaient à 20% la contrefaçon sur le marché mondial du vin, ce qui était assez élevé, et ça montait jusqu'à
20% des vins vendus dans le monde seraient des faux.
Ça, c'est ce qui est.
Ça, j'ai du mal à croire ça.
C'est une étude qui est sortie par les experts de Wine Spectator.
Oui, sur les grands crus, ça c'est peut-être plus possible.
Peut-être sur les grands crus.
C'est une étude de Wine Spectator.
Particulièrement en Chine.
Et voilà, et en Chine, on arrive sur un taux entre 40 et 60%.
On avait parlé de 70 000 bouteilles de fausses bouteilles de Lafite en Chine.
Voilà, donc c'est aussi le chiffre qui circule, c'est qu'il y a plus de Lafite Rothschild 80 en circulation qu'il n'en a été produit.
Ouais, c'est quand même juste incroyable. Alors, comment ça marche vos techniques là,
alors,
pour pouvoir
notre technique, c'est on se base donc sur la radiofréquence, donc les technologies RFID et NFC. Donc ça va permettre, en fait, on a développé une étiquette sécurisée qu'on va apposer sur les bouteilles, donc à cheval sur la capsule et à cheval sur le verre pour former un scellé. Et de sorte que si on essaie de détacher, de décoller ce composant, il va être détruit, donc on pourra plus le lire.
D'accord.
Ensuite, l'idée, c'est qu'on va pouvoir déposer cette étiquette donc sur la chaîne du producteur avec un outil industriel qu'on a développé avec un partenaire afin de respecter les cadences industrielles et pas ralentir le process existant. Et puis, le producteur va pouvoir administrer tout un ensemble de données sur son produit qu'il fera parvenir au consommateur final. Et puis, la force de notre solution, c'est qu'on a également développé des outils pour tous les intermédiaires, donc distributeurs, logisticiens, négociants, avec un tunnel intelligent qui est capable d'identifier toutes les bouteilles à travers des caisses et des cartons scellés. Donc ça permet d'avoir une traçabilité très rapide et très performante, et donc de pouvoir suivre le produit sur toute la chaîne de distribution. Et puis au niveau du consommateur final, nous avons développé une application smartphone NFC, donc justement la technologie qui est utilisée pour le paiement bancaire.
On va demander à Andy Lamouche de traduire tout ça. Quoi. Oui. On vous écoute, allez-y.
Et donc cette application va permettre au consommateur, dans un premier temps, d'authentifier son produit et ensuite d'accéder à un ensemble d'informations et de services qui ont été mis à disposition par le producteur. Donc ça va être par exemple des informations donc, sur le vin lui-même, comment il est vinifié, les différents cépages. Il va y avoir également une partie sur la propriété, donc les informations de contact, téléphone, email, site internet.
Ça c'est de l'info, mais en fait la véritable révolution c'est lutter contre les contrefacteurs.
Voilà,
alors qui vous a aidé financièrement vous
Alors on a été lauréat du concours national d'innovation organisé par BPI France et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc qui nous a permis d'avoir quelques fonds. Et puis là nous avons quelques partenaires stratégiques qui nous ont aussi aidé à absorber une grosse partie de la R&D, parce que ça fait quand même un projet qui dure depuis presque 3 ans de recherche et développement.
Vous avez déjà du chiffre d'affaires ou pas?
Alors non, on a fait le lancement commercial au début du mois de novembre.
D'accord.
Et donc là, on a quelques prospects en cours, mais pour l'instant, rien n'est déployé.
C'est très bien ça. Il y a un site internet pour prendre renseignements sur
fait.
Ce projet.
C'est wid.fr.
Didier Labouche, une réaction peut-être?
Bon, écoutez, oui, vous avez deux partenaires à côté de vous, BPI pour les investissements et moi pour voir sur la technologie, parce qu'on est leader mondial des technologies NFC RFID.
Ça peut communiquer, c'est très bien ça. David Cobol, c'est vrai que c'est un fléau, hein, les fous.
Moi, je trouve cette idée excellente. Il est grand temps qu'on ait des solutions, que les vignerons aient des solutions comme ça, parce qu'in fine, le consommateur trinque, mais le producteur également.
Parce
que, en fin de compte, c'est sa réputation qui est mise en cause,
tout
ça.
Et c'est
dramatique. Je pense que vous devez trouver, j'espère pour vous, beaucoup, beaucoup de clients.
Bien sûr. Et Corinne Lefort, qu'est-ce qu'elle en pense?
Oui, je rappelle au niveau historique que les premières taxes et les premiers contrôles sur l'aliment ont été faits sur le vin. Du temps de François Ier, parce que ça a toujours été un produit dont la contrebande, dont la contrefaction existait, et ça a toujours été un fléau.
Non, mais j'ai déjà vu des technologies équivalentes pour essayer de contrôler ça, mais elles touchaient le bouchon. C'est toujours un gros problème parce que les vignerons hésitent toujours à changer de bouchon pour d'autres.
Il y avait la radioactivité aussi, je crois. Il y a les concurrents qui avaient lancé ça, quoi.
Le carbone 14.
Exactement. Merci beaucoup, Didier Damos. Merci, Benoît Sudre. Bonne chance pour vos. Donc, redonnez le site internet une deuxième fois, là. Allez.
www.wid.fr.
Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour à la Bordeaux-Tech pour parler du cognac Godet.
Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour à la Bordeaux-Tech, nous sommes au Galerie Lafayette à Paris pour retrouver Didier Lamouche, le président de DLT Consulting, notre amateur œnophile qui nous parle champagne, Didier, aujourd'hui.
Absolument. Alors décembre, les fêtes de fin d'année dans quelques jours bien sûr, le moment d'évoquer le vin roi de cet événement, et bien évidemment c'est le champagne. Alors tout d'abord le terroir, on fait du champagne en champagne depuis l'époque gallo-romaine au moins. Blanc initialement, rouge, puis gris, issu de pressurage et de raisin noir. Il avait la fâcheuse habitude de mousser dans les tonneaux. D'où l'idée des Anglais, j'ose le dire malheureusement, des Anglais initialement, de le mettre en bouteille. Ce qui a donc créé le premier vin effervescent. Grâce à la libération du gaz carbonique qui se dissolvait dans le vin et qui se libérait par la suite. Alors heureusement, Dom Pérignon est arrivé à l'époque de Louis XIV.
Qui n'était pas anglais, je précise.
Qui n'était pas anglais, moine bénédictin. Et heureusement, il a redonné le leadership technologique à la France.
Le problème, c'est que Dom Pérignon a lutté toute sa vie contre la bulle qu'il considérait comme un défaut.
Exactement. Ah. Il a été le roi d'assemblage.
Mais c'est justement le génie des Français. C'est justement le génie des Français.
De prendre les défauts et les améliorer.
Le leadership que la France n'a pas abandonné depuis, car à mon avis, le champagne est probablement le seul vin au monde qui n'a aucune imitation, ni de près ni de loin. Hein. On fait de très très bons Cabernet Sauvignon, de très bonnes Syrah un peu partout. Je n'ai rien personnellement goûté qui approchait le champagne, probablement grâce au terroir. Je vois mon ami David qui opine du chef. Là, le terroir, David. Tu peux nous parler du terroir?
C'est un climat semi-continental avec une influence assez forte de la Manche, donc frais. Il fait, c'est presque, on peut dire que les champenois sont un peu les Esquimaux de la vigne en France. Pas tout à fait en Europe. Du coup, heureusement qu'ils ont de la bulle, parce que ça arrondit beaucoup de choses. Mais c'est le coup de gêner, effectivement, de pouvoir tourner un inconvénient en avantage énorme. Le terroir sur le plan sol, c'est de la craie, plus ou moins de la craie. Il n'y a pas de la craie partout, parce que quand vous allez dans la vallée de la Marne, c'est vraiment marneux. Donc il y a de la craie avec de l'argile dessus. C'est un climat qui est très difficile, c'est pour ça qu'on millésime pas tous les ans en Champagne. Ça, c'est vraiment le reflet du facteur climatologique, un climat très très variable. Donc et beaucoup de diversité à l'intérieur de la région avec des orientations très diverses, donc un terroir, je dirais, protéiforme. Et des grands écarts entre le nord et le sud. L'Aube est beaucoup plus proche de la Bourgogne qu'il n'est de Reims.
Didier Lamouche.
Alors, la technologie. Je parlais donc de technologie. Donc deuxième partie. Donc, je parlais du leadership technologique qui a été redonné à la France sous Louis XIV par Dom Pérignon. Deux mots sur la technologie. Depuis, la région de Reims ne s'endort pas sur ses lauriers et reste particulièrement
active. Faut arrêter avec ça.
Oh, ça va.
Je vais donner immédiatement quelques preuves de ça et même une référence.
C'est de la pub de moitié chandon.
Que vous pourrez lire. Non. Justement pas du CNRS, invention française, donc particulièrement actif pour maintenir le leadership de ces produits encore aujourd'hui. L'université de Reims, qui héberge quelques excellents labos de recherche sur le vin et le champagne depuis de nombreuses années, qui travaillent sur la compréhension des mécanismes physico-chimiques autour de la bulle et autour de la génération des arômes vers cette bulle. Je tiens à citer tout particulièrement le professeur Gérard Ligère-Bélair. Alors Ligère-Bélair, c'est un nom très célèbre en Bourgogne.
Mm-hmm. On connaît de grande qualité.
Voilà, on connaît Louis Michel, propriétaire du château à Vaune-Romanée. On connaît Thibault, vigneron à Nuit-Saint-Georges. Et bien là, il s'agit de Gérard. Gérard, c'est le dissident de la famille, car il est émigré en Champagne et ça donne non pas à la confection du vin, mais donc à la compréhension en particulier des phénomènes d'effervescence. L'équipe qu'il dirige a permis en particulier de comprendre le rôle des bulles et de la forme du verre lors d'une dégustation de champagne. Ils ont isolé et compris les mécanismes de transport des arômes par la bulle, et en particulier, qu'est-ce qui conditionne le fait qu'une bulle soit plus ou moins fine qu'une autre, et qu'est-ce qui fait qu'elle dégage plus d'arômes quand elle éclate à la surface. Une référence, mon cher David, puisque vous avez besoin d'être convaincu, je le vois, donc je vous recommande pour les fêtes de Noël un excellent bouquin du professeur Ligère-Bélair, Voyage au cœur d'une bulle de champagne, et si vous n'êtes pas convaincu après ça, on se reparle. Donc,
et Louis XIV, enfin, là-dedans.
Passons donc aux choses.
Il n'existait pas à l'époque.
Voilà.
Non, parce que c'est Louis XV qui a autorisé pour la première fois la mise en bouteille de vin en champagne. Donc, matériellement, et c'était après la mort de Dom Pérignon.
Nous en parlerons après lecture de bouquin.
Voilà, le problème des Anglais, c'est que même quand on leur donne des fêtes, ils ne sont pas d'accord.
Mais je vois française pas de façon.
Aux choses sérieuses. La dégustation. Donc, au-delà des maisons célèbres, Ruinard, la plus ancienne, Mouette ou Rodrère, j'ai sélectionné pour nous, pour Noël, quatre vignerons indépendants qui, pour moi, font de très très belles choses et surtout le font avec passion. Le premier, donc, champagne haut de gamme, qui, à mon avis, sont dignes des très grandes maisons et d'un prix plus raisonnable, la maison Pierre Moncuit, située à Ménil-sur-Auger, au cœur de la Côte des Blancs, ne produit que des blancs de blanc, donc 100% chardonnay, somptueux, très fin, j'en citerai deux, le 2004 Grand Cru, un très joli nez de pain grillé, toasté, magnifique sur un foie gras, donc pour les fêtes encore une fois, et puis une mention particulière pour un que j'ai goûté récemment, le Nom d'Osé 2005, un très grand blanc de blanc, donc sans sucre ajouté, au nez de fleurs blanches, d'aubépine, et une finale, agrumes, pamplemousse, droit, très puissant, avec un superbe potentiel de vieillissement.
Combien ça coûte à peu près, Didier, la bouteille?
Entre 30 et 40 euros.
D'accord.
Voilà, selon le millésime.
Deuxième maison.
Dans la même veine, la maison Agrapard. Alors je voulais signer également, si vous allez sur place, l'excellent accueil de Isabelle, localement chez Moncuit. Dans la même veine, la maison Agrapard à Avize. Alors là, l'accueil n'est pas au même niveau, comme souvent malheureusement en Champagne, mais les produits sont excellents. Et je citerai en particulier la cuvée 7 crues, qui est fait de blanc de blanc également, qui est fait de 7 crues, assemblage de 7 villages de la Côte de Blanc, très puissant en bouche et avec un nez splendide, étonnant, de caramel. Je vais rarement goûter en Champagne. Voilà. Troisième élément, au chapitre des vieux millésimes. On dit souvent que le champagne ne vieillit pas. Et bien pour ceux qui veulent la preuve du contraire, voilà une adresse. On dit souvent donc que le champagne ne vieillit pas. L'adresse, c'est Guy Michel, qui est vigneron depuis 4 générations à Pierry, qui excelle dans les vieux millésimes à des prix extrêmement raisonnables. J'adore en particulier ses 82, 88, 89 et même un sublime 82 aux arômes de miel, qui ont plutôt un champagne de dîner. Hein,
je suis bien d'accord avec Didier sur ce point. La capacité de vieillissement des champagnes, et je signale une autre très bonne adresse, peu connue, c'est petite cave coopérative qui s'appelle Palmer, qui a des vieux millésimes absolument remarquables.
Où ?
Palmer, à Reims.
À Reims.
Grand village, Reims.
D'accord. Et enfin,
le dernier pour moi, probablement le meilleur rapport qualité-prix. Alors c'est un blanc de blanc également, c'est la maison Jean-Henri Quénardel, cinquième génération de vignerons à Lude, cette fois-ci. Donc vigne de Chardonnay, élabore un magnifique blanc de blanc. Son secret est assez simple, ses raisins ne proviennent pas de la Côte des Blancs, comme la plupart, mais de terre à Pinot, plus froide, située au nord de Reims, sur Cernay-les-Reims. Et ce qui lui donne plus de puissance, d'acidité, et qu'il arrive à domestiquer parfaitement grâce à un passage de au moins 7 à 8 ans en cave, donc avant d'égorgement, ce qui permet d'adoucir un peu la virilité du vin. Et tout ça pour un blanc de blanc à 15 euros. Voilà, régalez-vous, joyeuses fêtes.
Merci beaucoup Didier Lamouche, vous restez à nos côtés pour accueillir un nouvel invité, Maxime Godet du Cognac Godet. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Alors un peu d'histoire, hein. Vous êtes la 15e génération, vous ne les faites pas, hein. Tout débute en 1550, dites-nous.
Exactement, nous on est d'origine hollandaise et mes ancêtres sont arrivés à La Rochelle à l'origine pour cultiver le sel. Et il a découvert sur la plaine d'Onis, qui se jette dans l'Atlantique, un vin blanc. Et il a switché, il est passé du sel au vin, et il a commencé à exporter le vin dans les pays nord-européens. Et le cognac a été découvert pour des soucis actuellement, des soucis économiques. Ils ont brûlé le vin, ils ont concentré l'alcool, pour que lorsque on transportait le vin, eh bien, il y ait moins de...
Parce que le Hollandais étant très économe, on était taxé au volume. Donc, il pensait en réduisant le volume, il payait moins de taxes, c'était vrai. Et il pensait qu'il pouvait rajouter de l'eau à la fin et obtenir du vin.
Je pense que ça a dû marcher pendant un temps. Mais ensuite, il y a des petits malins hollandais qui ont découvert que lorsqu'ils ouvraient la barrique, eh bien, le vin qui était resté pendant quelques mois dans la barrique n'avait pas besoin d'être réduit. Et c'était l'ancêtre du cognac. À l'époque, ça s'appelait Brandwein, c'est-à-dire vin brûlé.
Alors, depuis...
C'est les Anglais qui ont contracté en brandy.
Encore, là. Maxime Godet, depuis 2009, vous bossez toujours en famille. Vous êtes trois frères, c'est ça?
Alors, non, on est complètement familial. J'ai trois frères. Il y en a un qui s'occupe de toute la partie fabrication. Il a travaillé dans des châteaux à Bordeaux, dans des propriétés en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Amérique latine. Maintenant, il s'occupe de faire le cognac. Il y en a un autre qui est basé à Dubaï, qui s'occupe de tout le marché du Moyen-Orient. Et moi, je navigue un petit peu entre l'Asie et l'Afrique.
Oui. Alors aujourd'hui, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas le cognac Godet, ce qui est un tort, dans la gamme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a différentes familles.
dans la gamme. Alors nous, on a une spécificité, c'est que on a à peu près une 30-35 qualités de cognac. Aujourd'hui, on nous dit toujours oui, vous avez, il faut ne pas réduire sa gamme pour justement avoir un impact marketing plus important. Et ben nous, on pense l'opposé. Le cognac, l'univers du cognac est sclérosé. Aujourd'hui, tout le monde connaît le VS, le VSOP et le XO. Et à part ça, il y a rien. Alors nous, on a fait les choses différemment. On travaille des cognacs de cépage avec la folle blanche. On travaille des cognacs des millésimes. On travaille des cognacs
les
non assemblés.
Vous avez deux minutes. Il paraît que vous avez des 1900, des 1922 et des 1928.
Même de 1848. Bah, oui, 15 générations.
Une bouteille de 1848, par exemple.
Bah, il y a pas de prix.
À peu près, hein, à 100 000 euros près, quoi.
À 100 000 euros près. Non, ce sont des choses qui peuvent sortir à 25 000 euros.
Ouais, c'était une bouteille historique.
Mais c'est pas en Europe où ça s'achète.
Alors plus récemment, vous avez lancé aussi Antarctica. Qu'est-ce que c'est?
Alors Antarctica, c'est une autre vie de vin. Donc ce n'est plus un cognac, parce que le cognac doit être ambré pour avoir l'appellation cognac. Et donc c'est une autre vie de vin, et c'est un produit qui avait pour but d'un petit peu révolutionner le milieu du spiritueux. Ça se boit glacé, et c'est jeune, c'est un petit peu nouveau, on fait des cocktails avec.
Vous dites que vous êtes souvent en Asie, la Chine, il paraît que c'est un marché un peu en berne pour le cognac notamment, vous confirmez?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, les maisons comme les nôtres, les petites maisons, parce qu'on a une petite maison, on est toujours dans des courbes différentes des grands mouvements. Lorsque les grandes boîtes rament, eh ben nous justement, c'est à ce moment-là où on prend des parts de marché, parce qu'on arrive avec une proposition plus exotique, des conditions beaucoup plus flexibles, et puis surtout notre temps de réaction, on va deux fois plus vite. Donc on s'adapte beaucoup plus rapidement à des changements de marché, à des changements de tendance.
Et les relais de croissance à l'international, vous voyez où? Parce qu'on a parlé de la Chine, il y a d'autres pays qui vous intéressent?
L'Afrique qui est un des gros maintenant, un gros acteur. Il y a un gros pays qui se distingue, qui est le Nigeria. Mais nous, on fait des bons petits résultats au Togo, au Burkina Faso, dans la partie ouest.
C'est compliqué.
Les résultats sont meilleurs que l'année dernière.
Ouais. C'est vous qui provoquez les changements de gouvernement successifs dans ces pays-là?
Alors, je ne sais pas si on peut les provoquer,
mais en tout cas, on les aide.
Ouais, le cognac, c'est le changement.
Merci Maxime Godet, et bon vent pour cette super boîte familiale, hein, le cognac Godet. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement sur votre maison?
Cognacgodet.com.
Merci, on marque une dernière pause, et ensuite retour ici ou à la Bordothèque pour parler de la distillerie de Paris et du marché mondial des vins effervescents.
BFM Business, Weekend. Invino BFM. Alain Marty sur BFM Business.
Retour à la Bordothèque. Nous sommes toujours au Galeries Lafayette à Paris pour accueillir un nouvel invité, Nicolas Jules, cofondateur de la distillerie de Paris. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors racontez-nous, avant de parler distillerie, vous avez des boutiques à Paris. Il y en a combien? 6 dans le 10e arrondissement?
Alors oui, c'est les boutiques d'épicerie où on est en famille et chacun va un peu de sa passion. Et
vous êtes combien dans la famille à travailler?
On est 4.
D'accord. Et puis, vous avez battu les Godets là.
Exactement.
Référence à notre invité précédemment, oui. Maxime Godet, bien sûr.
Et donc on est sur la pâtisserie, la boulangerie, le vin, l'affinage des fromages et les spiritueux. On a une vraie passion pour les spiritueux, mais aussi quoi, pour l'épicerie dans le sens large, c'est-à-dire une espèce de culture générale de la gastronomie. Moi, je trouve ça toujours un peu particulier de s'intéresser au vin ou au spiritueux sans s'intéresser à la gastronomie et vice-versa. Je suis toujours un peu choqué parfois de chefs extrêmement pointus en gastronomie qui ne comprennent pas du tout le monde.
Quelques noms peut-être de chefs abrutis.
Je ne veux pas me fâcher.
Alors Nicolas, vous avez 6 boutiques dans le 10e, vous n'avez pas envie de vous exporter dans le 11e, dans le 9e?
Le 9e peut-être un jour.
Il n'a pas encore son passeport. Donc
ouais, c'est ça.
Pourquoi pas, c'est un choix.
En fin de compte, on est arrivé dans le quartier un peu par hasard. On a adoré ce quartier et puis
c'est jamais sorti.
On a repris des boutiques, c'est... voilà.
Directement. Alors, on parle de ce projet, là, le concept distillerie de Paris. Vous allez tout. Alors, racontez-nous.
Alors, on a les mains dans le cambouis. Là, on a reçu l'alambic hier avec 8 mois de retard.
Et pourquoi 8 mois de retard pour
l'alambic? Parce qu'il n'y a pas assez de cuivre. Il y a des gens qui piquent le cuivre partout, donc c'est compliqué.
C'est pas loin de ça. En fin de compte, il y a une énorme.
Fabricant surtout.
Exactement. Et quoi, notre chaudronnier, c'est Holstein en Allemagne, dans la forêt noire, qui est un peu la Rolls de l'alambic de micro-distillerie. Et donc, il y a énormément de demandes, puisque la micro-distillerie, c'est quand même un nouveau paradigme qui est un peu comme la micro-brasserie dans le monde de la bière. D'ailleurs, c'est deux phénomènes complètement liés. est en train de changer la production des spiritueux quand même.
Et donc l'alambic est arrivé, donc vous allez distiller sous la marque Distillerie de Paris.
Exactement.
Vous avez demandé à la mairie de Paris l'autorisation ou vous avez fait ça en loose day?
Un peu en loose day. Ouais,
là, là c'est fini le loose day avec FM. Hein, c'est...
Mais en même temps... A priori, on peut appeler ça distillerie de Paris.
Bah, écoutez, vous verrez bien, hein, si vous êtes belle lettre commandée pour le 31 décembre. Non. Alors, on arrive. Donc, vous allez distiller quoi?
Alors, l'idée, justement, c'est en puisant dans notre passé d'épicier, quoi, dans notre activité d'épicier, pas de passé d'ailleurs. Ça a été compliqué. Être à Paris, c'est 5 ans de travail. Ça a été très, très compliqué. C'est vraiment une espèce de dérogation qu'on a réussi à obtenir. Et en fin de compte, l'idée, c'est pourquoi Paris? Parce que si on va s'exporter dans au fin fond de la Creuse ou peu importe, très rapidement, on devient, on crée un micro-terroir qui est absolument génial. Par exemple, la distillerie de Haute-Glace a fait ça et moi, j'adore leur travail. Mais moi, je voulais absolument pas ça. Je voulais une distillerie qui soit ouverte sur la créativité. Et je pense que la plus belle ville de France et peut-être du monde pour ça, c'est Paris, où on va capter les énergies... Par exemple, moi, Cognac, c'est un peu la mecque des spiritueux pour moi. Je suis très inspiré par Cognac, par le monde du whisky aussi, du rhum, mais aussi par le monde de la gastronomie, le monde de la parfumerie, le monde du vin, beaucoup de vignerons.
Et vous êtes passé où physiquement en Paris?
Alors, on est dans le 10e arrondissement.
Oh, c'est original.
Et entre la rue Faubourg-Saint-Denis et le boulevard de Strasbourg, un peu caché.
Et au niveau de la gamme qui va être distillée, donc
bah, Denis et Lamouche va maintenant décrire le terroir de la rue de
Faubourg. Voilà. Il y a
alors, des bâtiments de 5 à 10 étages, orientés nord, nord-sud.
Voilà, avec M. Haussmann qui est passé.
Beaucoup de pluie.
Et c'est très intéressant parce que dans les spiritueux, le terroir, par exemple dans le whisky, le terroir vient pas du grain. Le grain vient de partout sauf d'Écosse en général. Il vient pas des fûts, puisque les fûts viennent de partout sauf d'Écosse. Le terroir vient dans la culture des gens. Et de leur problématique. Par exemple, si on était sur les îles type Aélère, on faisait des whisky fumés parce qu'il n'y avait pas accès au charbon. Et nous, à Paris, notre terroir, moi je revendique, pour plagier un petit peu Yannick Alléno, pour qui j'ai beaucoup de respect, il y a un terroir parisien dans le sens où à Paris, on a, dans mon quartier, il y a la communauté indienne qui dit que c'est Little India, les communautés turques qui disent que c'est Little Turkey, les Polonais pensent que c'est leur quartier, les Blacks pensent que c'est leur quartier. Donc du coup, c'est polyculturel. En termes de gastronomie, on a des influences du monde entier. Et c'est cette énergie-là qu'on veut capter. Moi, j'ai la chance de rencontrer énormément de vignerons, énormément de producteurs de vin, de cognac, de rhum. Et c'est toutes ces énergies qui nous inspirent.
Et alors, donc Nicolas, quel type de produit vous avez distillé?
Alors, du gin, parce que c'est un alcool qui se fabrique, le gin, comme une recette qui est, c'est un vrai délice de fabriquer.
On retrouve
du gin.
Les Hollandais, là. Hein?
Oui, exactement. C'est un vrai délice de produire du gin. On va avoir, on va produire des alcools de céréales, donc, qui, une fois vieillis, donneront des whisky, mais qu'on commercialisera avant même le vieillissement. Ensuite, on va sourcer des sirops d'agave et de la mélasse, parce que c'est plus logique de transporter un litre de mélasse qui donne un litre de rhum, puisqu'on redilue 10 fois la mélasse, c'est plus logique de transporter de la mélasse que du rhum. Ça coûte beaucoup moins cher. Et historiquement, les Américains...
Et encore les Hollandais.
Et les Américains, George Washington, distillait de la mélasse qui venait des Antilles françaises.
Vous allez pouvoir mettre un alambic sur l'île Saint-Louis, par exemple, et dire c'est un rhum des îles.
Alors oui, j'adorerais, sauf que les douanes m'ont fait comprendre que... Il fallait pas que je recommence une deuxième
Allez,
fois parce
Nicolas
que
Genèse, pour terminer au niveau des sous là, vous avez appel au financement participatif pour récolter un petit peu de sous là.
Oui, c'est le crowdfunding. Alors c'était aussi un moyen de communication, un moyen d'aller s'adresser à une communauté. On a demandé 10 000 euros, on a récolté 40 000 euros.
Il y a combien, 500 personnes qui ont donné un petit peu de sous?
Oui, exactement. Et ça, je recommande à tous les entrepreneurs et tous les gens du monde du vin de penser au crowdfunding parce que. C'est logique. On va d'abord demander l'autorisation à sa communauté. Est-ce qu'ils sont partants? Est-ce qu'ils sont preneurs? Les Bordelais sont plutôt forts là-dessus. Ils ont su faire ça avec les primeurs, finalement, depuis longtemps. Le crowdfunding, c'est eux qui l'ont inventé.
C'est le Beaujolais nouveau aussi, qui est pas mal au niveau rentabilité.
Oui. Mais le crowdfunding, c'est les vins primeurs, quoi.
Terminer, Nicolas, votre dernier 20 coups de cœur, c'est quoi? Vous aimez le vin?
Alors moi, j'ai regoûté il y a pas longtemps et c'est, je pense, un de mes vins fétiches, quoi. Je suis fan de Rayas et j'ai eu la chance de goûter il y a
Rayas,
quelques
dans quelle
jours.
Région
Châteauneuf, et j'ai eu la chance de goûter Rayas 95 il y a quelques jours, qui était à absolument
Merci incroyable. Nicolas, je vais laisser un site internet peut-être pour une adresse, peut-être pour
distillerieparis.com.
D'accord. Vous cherchez toujours des sous, vous êtes blindé là, c'est fini?
Non, on cherche pas de sous, on travaille maintenant très fort.
Et votre logo, c'est quoi?
C'est une petite goutte d'eau, oui. Et vous regarderez bien, il y a une petite tour Eiffel cachée discrètement à l'intérieur.
Oh là, il y a ça attaqué droit à l'image deux fois, disiez la bouche.
Raya, superbe Châteauneuf-du-Pape, le seul Châteauneuf-du-Pape avec un seul cépage.
Une vie de BFM continue
avec qualité variable selon le millésime quand même.
Avec David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour une histoire de bulle.
Alors, la bulle qui monte, Didier va aimer ça, parce que bulle, bon, il a déjà amorcé le sujet avec champagne, mais là, je vais parler sur le plan économique, parce que mes sujets en ce moment, c'est plutôt le marché ou les marchés. Alors, la bulle, ça, c'est une affaire qui marche dans le monde des vins. Si on prend le segment des vins à bulle, tous les feux sont les voyants sont au vert. La production de vin effervescent en 2013 a augmenté de 11% par rapport à 2012. On n'a pas encore les chiffres, évidemment, pour 2014. Ce qui fait une hausse de 40% en 10 ans. C'est rapide, quand même. Dans un marché de vin qui, globalement, stagne, voire rétrécit sur le plan
donc
mondial.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, David? Il y a le rosé qui a augmenté et les bulles?
Alors, je parlerai du rosé peut-être une autre fois, mais pour les bulles, oui, le rosé augmente et les bulles augmentent. Maintenant, on atteint 7% de la production mondiale de vin qui est effervescent. Alors, ça paraît peu, mais ça augmente de très, très rapidement. Si on regarde les zones de production, ce sont des zones qui se diversifient aussi de plus en plus. C'est-à-dire que beaucoup de gens rentrent dans ce marché, puisque c'est un marché en expansion, c'est assez logique. En 2000, par exemple, 74%, presque trois quarts des vins effervescents, venaient de quatre pays. La France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Aujourd'hui, ce chiffre n'est plus qu'à 63%. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux entrants, l'Argentine, le Brésil, l'Australie, la Californie et des pays de l'Est également. La France est le plus grand pays de producteurs de bulles avec 3,5 millions d'hectolitres produits et le champagne seul compte pour 15%. Donc champagne, de loin le plus cher aussi, donc en rentabilité c'est de loin le meilleur, mais ce n'est que 15% des vins effervescents du monde. L'Italie est le deuxième, tout proche de la France, et augmente très rapidement. Je raconte pas les réussites des Asti Spumanti, c'est un peu vieux, les Moscato d'Asti qui comptent aussi, léger, bulle et sucré, les Prosecco surtout, les Franciacorta aussi, il y a plein de bulles en Italie et de plus en plus. Troisième place, l'Allemagne qui convertit 30% de sa production en bulles. Avec une partie, il faut bien le dire, les zecs allemands. Il y a des zecs allemands et des zecs tout court qui sont issus de moûts importés de différents pays. Mais 30% de la production de vin allemande est bulleuse. Quatrième production, l'Espagne, avec les cava. Cava, seule appellation qui n'a pas une origine géographique déterminée. Ça surprend les gens parce que les gens
pensent... On peut faire du cava à Paris, par exemple.
Non, partout en Espagne.
Dans le dixième.
Partout en Espagne. Pas dans le dixième encore, mais ça serait du cava parisien. Vous aurez des problèmes avec les Espagnols qui ont lutté pour avoir ce nom. Disons qu'ils ont été boutés hors dehors de la mention champagne parce qu'ils appelaient ça Spanish Champagne pendant très longtemps. Maintenant, c'est cava. Cava, ça veut dire une cave et on peut le produire partout en Espagne, même si 95% vient de la Catalogne. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? L'Est de l'Europe, de plus en plus. Des pays du Nouveau Monde, par exemple, l'Australie affiche un plus 30%, les États-Unis plus 25%, Argentine trois fois la production, et au Brésil de 250%. Alors, même si cette production reste très marginale à l'échelle mondiale, la production des bulles anglaises commence à devenir conséquente. Conséquente, tout est relatif. Il y a 1500 hectares dont à peu près deux tiers sont dédiés au vin à bulles. Je viens de constater que dans le grand concours International Wine Challenge, les bulles anglaises ont gagné pas mal de médailles, or et argent. Donc,
Mais il n'y a pas de raison, parce que le terroir dont vous parliez si bien tout à l'heure...
C'est un climat très proche du climat champenois. Les sous-sols sur toute la côte sud, c'est la même structure de sous-sol, c'est la craie à Bellemite. Donc, y a des bulles intéressantes si le climat est à peu près est un peu moins stable qu'en Champagne quand même. Alors les échanges, autre facteur du marché, les échanges, parce qu'on exporte beaucoup. Champagne est exporté à presque 50% aujourd'hui, et les échanges sont intéressants puisqu'on constate que des marchés qui produisent beaucoup de bulles sont aussi importateurs de bulles. C'est-à-dire qu'il y a une appétence pour la bulle. L'Angleterre, évidemment, premier marché à l'exportation pour le champagne depuis très longtemps. L'Allemagne, un très gros marché aussi. L'Italie, l'Espagne, les États-Unis et, curieusement, l'Australie aussi, qui adore le champagne et qui produit de plus en plus de bulles. Donc, quelque part, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Ça stimule la qualité, quelque part. Globalement, je dirais que la consommation a augmenté de 30% en 10 ans et je pense que cette tendance va se poursuivre. Si on revient en France deux secondes en dehors de la Champagne, maintenant 25% des vins d'Alsace sont en des bulles, plus de 25% des vins de Jura, de plus en plus vins de Bourgogne. Et la Provence commence à produire des bulles. Devinez dans quelle couleur.
Merci David Cobol. Corinne, vous appréciez les bulles françaises?
J'aime bien sûr les bulles françaises, mais il y a aussi une réalité, c'est que le climat est en train de changer et qu'il y a des terroirs qui avant ne faisaient pas de champagne et qui aujourd'hui...
Des bulles,
méthode champenoise, méthode champenoise.
Il y a plein de procès là en cours, là, entre Paris et Champagne.
Voilà. Et
merci beaucoup à tous. Fin de ce 525e numéro de InVino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site BFM Business. On se retrouve comme d'habitude à la Bordeaux-Tech au Galerie Lafayette à Paris, samedi à 10h à dimanche à 16h. D'ici là, bonne suite de week-end sur BFM Business toujours et surtout respectez la plus grande des modérations.